Vous êtes sur RTL.
Il est 9h. RTL Matin avec Stéphane Carpentier et le journal d'Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et l'actualité, c'est la priorité, vous le savez, sur RTL. Nous prenons la direction de Courchevel avec un très gros incendie cette nuit.
Deux personnes sont mortes, il y a également des blessés. Bonjour Serge Pueyo.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant de RTL dans la région. Le sinistre s'est déclaré dans une résidence en plein cœur de la station de ski, Serge.
Oui, et le dernier bilan fait état de 2 morts, 4 blessés graves et 10 blessés légers. L'incendie a démarré, vous l'avez dit, vers 4h30 dans un bâtiment de 3 étages situé dans le centre de la station, sur la Croisette. Bâtiment occupé par une 60aine de saisonniers. Le sinistre a été très violent, très spectaculaire, comme l'explique le maire adjoint de Courchevel, Jean-Christophe Vidoni.
Un incendie en plein centre d'une station, c'est toujours très spectaculaire. Beaucoup de flammes sur la partie haute du bâtiment et puis gens affolés, bien sûr, qui sont évacués par les pompiers et puis mis en sécurité pour la plupart, bien sûr.
Il y a eu un petit moment de panique ?
Il y a eu un moment de panique, c'est un peu nécessaire, c'est un peu malheureusement obligatoire. Bon, l'incendie a été violent et donc en plein centre d'une station, bien sûr, certaines personnes étaient affolées, c'est évident.
Voilà, près de 70 pompiers ont été mobilisés. L'incendie est désormais maîtrisé. Place maintenant à l'enquête pour tenter de déterminer quelle est l'origine du sinistre.
Serge Pueyo en direct pour RTL. Merci Serge.
2 morts, 4 blessés. Je vous redonne le bilan. On reprendra la direction de Courchevel évidemment dès que nécessaire. Gilets jaunes, acte 10. Agnès, nous vous proposons ce matin un témoignage très fort. Celui de Jean-Marc. Il manifestait hier dans les rues de Bordeaux.
Un gilet jaune de la première heure. Il aurait pu abandonner après avoir perdu son œil le mois dernier. C'est tout le contraire. Aux revendications initiales s'ajoute désormais la colère de voir certains policiers ou gendarmes tomber parfois dans la violence.
Le 8 décembre, j'ai été touché par un flashball à bout portant parce que je protégeais ma femme. C'est là où j'ai vu une trentaine de flics arriver et puis tirer. Donc, vu que j'avais ma femme derrière moi, j'ai simplement eu le réflexe de la pousser. Je me suis fait taper. J'ai passé 7 heures en chirurgie faciale pour me refaire le côté droit. Donc oui, c'est violent, surtout quand tu vas dans une manifestation pour gueuler parce que on a marre de pas manger.
Et votre œil aujourd'hui ?
Il n'y a plus d'œil. Il n'y a plus d'œil, il n'y a plus rien du tout. C'est un petit poids qui est accroché au bout d'une nerf optique.
Vous êtes toujours mobilisé, vous êtes venu manifester.
Ça m'a renforcé, quoi. C'est pas parce qu'on est blessé qu'on doit rester chez soi. Je suis désolé. Puis encore au jour d'aujourd'hui, j'irai en première ligne pour dénoncer ces violences. Et non, la peur, elle doit pas être du côté du citoyen. Je suis désolé.
Un témoignage RTL recueilli par notre correspondant à Bordeaux, Philippe de Maria. Bordeaux qui a connu de nouveaux affrontements en fin de cortège, comme à Toulouse, qui, signalons-le, a enregistré un record au niveau du nombre de manifestants. 10 000 dans les rues de la ville. En tout, ce sont 84 000 personnes qui ont battu le pavé partout en France lors de ce 10e acte des Gilets jaunes.
À Paris, Agnès, un peu moins de monde et une baisse des violences.
Cela s'explique peut-être par des cortèges plus structurés. Les brassards blancs font office de service d'ordre des Gilets jaunes. Ils sont de plus en plus nombreux à encadrer les manifestants. Hier, dans la capitale, Vincent Serrano, ils étaient à peu près 150.
Oui, un service d'ordre qui se rassemble à l'avant du cortège. C'est là que Yasmine récupère dans le coffre d'une voiture un tissu blanc qu'elle enroule autour de son bras droit.
Écoutez, on se suit sur des réseaux sociaux et puis après sur place, on organise les groupes.
Et très vite, les brassards blancs se positionnent tout autour de la manifestation.
Pour un peu encadrer les gens qui sont autour de nous, pour ralentir un peu le cortège, c'est-à-dire qu'on encadre aussi. Il y a certaines personnes qui sont vraiment beaucoup plus costauds que moi et qui arrêtent des gens qui veulent faire le bazar ou certaines qui veulent casser les choses.
Des femmes, des hommes de tous âges, anciens militaires, plombiers, étudiants qui font la circulation, qui dénoncent même parfois des casseurs à la police s'ils en voient. C'est ce que Frédéric, un manifestant, attendait depuis le début.
Sur le service qui me rend quand je vais manifester, je trouve ça très très bien. Voilà typiquement un des messages qu'ils vont nous faire passer, c'est ne marchez pas près des boutiques, ne marchez pas sur les trottoirs, marchez en plein milieu des avenues.
Et ça vous fait du bien.
J'adore. Je trouve que c'est vraiment la bonne réponse en fait. Enfin, il y a des gens qui cherchent à nous diaboliser. On n'est pas violent. En structurant un petit peu ce type de service, on va pouvoir le montrer.
Des brassards blancs qu'ils concèdent, ils ne peuvent pas être partout, mais font tout pour. Leur nombre ne cesse d'augmenter, 150 hier, rien que pour le cortège parisien.
Le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Pour la 3e fois depuis le début du mouvement, les femmes gilets jaunes se donnent rendez-vous. Ce sera aujourd'hui à 11h devant la Tour Eiffel à Paris, mais aussi à Amiens, Narbonne, Bordeaux ou encore à Quimper.
Le grand débat national, les gilets jaunes, autant de sujets qu'abordera tout à l'heure notre invité dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui sera face à Benjamin Sportouche. Merci de m'aider, Agnès Bonfillon. On vous retrouve retrouve dans un instant pour la suite du journal avec la France qui passe à l'action pour taxer les GAFA.
RTL, il est 9h08, RTL Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Agnès Bonfillon.
Agnès, la France n'attendra pas l'Europe sur le sujet, elle va taxer les GAFA.
Ces gros groupes comme Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Dès le mois prochain, un projet de loi va être présenté en Conseil des ministres. Il sera ensuite soumis au vote des députés. Quelles seront les autres entreprises numériques visées? Écoutez en exclusivité pour RTL le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Seront taxées dans ce projet de loi toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires mondial de plus de 750 millions d'euros, un chiffre d'affaires ensuite national à 25 millions d'euros. Nous aurons une taxation qui sera progressive pour tenir compte de la taille des entreprises et que la taxe soit plus importante pour les très grosses entreprises et plus modeste pour les entreprises plus petites. Et elle s'appliquera dès le 1er janvier 2019, c'est-à-dire que nous prendrons en compte l'intégralité du chiffre d'affaires de l'année 2019. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord un objectif de justice. Personne ne peut accepter qu'une PME française paye 14 points de plus d'impôts que Google, Amazon, Facebook ou d'autres géants du numérique, qu'ils soient chinois ou européens. Personne. C'est incompréhensible, c'est injuste.
Bruno Le Maire avec Christophe Ponzio pour RTL. Le ministre de l'économie est actuellement en Égypte. Il doit rencontrer cet après-midi le président Abdel Fattah al-Sissi. Selon le journal du dimanche, l'épouse de Carlos Ghosn demande de l'aide à Emmanuel Macron. Le PDG de Renault est en prison au Japon depuis le 19 novembre dernier. Très préoccupé, sa femme demande au président français de garantir un procès équitable.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump, lui, met un compromis sur la table.
Pour mettre fin au shutdown qui paralyse l'administration depuis plus d'un mois, le président américain ne renonce pas à son projet de construire un mur à la frontière mexicaine. En revanche, il propose un marché aux parlementaires, Pauline Simonet.
Donald Trump devait réagir. Acculé par de mauvais sondages, une majorité d'Américains le jugeant responsable du shutdown, le président fait une proposition de compromis. Dans son annonce, il reste inflexible sur son mur, une promesse de campagne qu'il appliquera coûte que coûte, dit-il, indispensable pour stopper la crise humanitaire et sécuritaire à la frontière. Mais après un mois de paralysie des administrations, le président tend la main à l'opposition. Si le Congrès finance cette barrière d'acier, comme il l'appelle, il accordera un statut légal temporaire après d'un million de migrants qui risquent l'expulsion, notamment ceux qui sont arrivés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs. La balle est dans le camp de l'opposition, mais pour la chef de l'Assemblée, la démocrate Nancy Pelosi, les propositions du président n'ont aucune valeur. Les démocrates pourraient ajouter un milliard de plus pour la sécurisation de la frontière, mais pas question de financer un mur. Les lignes sont en train de bouger, mais les Américains ne sont pas encore sortis du shutdown.
Pauline Simonet à Washington pour RTL.
Les sports, c'est de la balle pour nos handballeurs. Joli. En tout cas pour l'instant.
Après avoir dominé l'Espagne hier soir 33-30, ils font un pas de plus vers les demi-finales, a confirmé aujourd'hui à 18h30, hein, ce sera face à l'Islande. Les Barjots, les Costauds, les Experts, peu importe leur surnom, au fil des ans, les Bleus ont su se faire une belle place dans le cœur des Français. Ce que confirme cette semaine le baromètre Sport Odoxa pour RTL, Eric Silvestro.
Effectivement, derrière les intouchables footballeurs champions du monde, les handballeurs français sont bien les chouchous du public. Dominateurs de leur discipline depuis une décennie, ils devancent les rugbymen, les tennismen, les basketteurs et les volleyeurs en termes de popularité. Mieux, leur image est extrêmement flatteuse, talentueux, motivé, sympathique, ayant l'amour du maillot. Autant de qualificatifs cités par plus de 8 personnes interrogées sur 10. C'est donc logiquement que les trois quarts des Français misent sur un triplé historique des experts aux mondiaux après leur titre en 2015 et 2017. Et le retour Nicolas Karabatic contre la Russie jeudi renforce encore cette conviction puisque le demi-centre demeure indispensable aux Bleus pour 61% des amateurs de handball.
Eric Silvestro du service des sports de RTL. La déculottée de Guingamp au Parc des Princes hier en 21e journée de Ligue 1. Les Bretons ont pris 9 buts sans pouvoir réagir face au PSG. 9-0, score très rare et inédit dans l'enceinte de la capitale. Cela permet au leader de rappeler qui est le patron 10 jours après son élimination en Coupe de la Ligue par Guingamp. La boucle est bouclée. Malgré ce score, mauvaise nouvelle pour les Parisiens, la blessure de Marco Verratti à la cheville. Et puis les autres résultats de cette 21e journée de Ligue 1, rien ne va plus pour Monaco, qui s'enfonce encore, battu 5-1 par Strasbourg. Toulouse l'emporte à Nîmes 1-0 et 1 partout entre Reims et Nice.
Et 21h ce soir, c'est le show derby annoncé entre Saint-Etienne et Lyon. C'est un soir de Ligue 1, bien sûr, et une rencontre à suivre sur RTL.
La lune est là, la lune est là, la lune est là et le soleil nous la voit. voit pas.
Eh bien, nous non plus, nous ne la verrons pas la lune la nuit prochaine. Éclipse prévue à partir de 4h du matin. La dame va doucement disparaître. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes pour l'admirer, cette éclipse. La moins bonne, c'est qu'il faut mettre votre réveil assez tôt. Ouais. Si vous la ratez, prochain rendez-vous en 2022.
Ouais, bah tant pis. Je ferai un rendez-vous avec la lune. 4h demain matin, quoi, on a autre chose
à
faire.
Comme si vous n'étiez pas habitué à vous lever tôt, Stéphane Carpentier.
Le week-end, mais pas le lundi matin. Merci Agnès Bonfillon.